À la fin, j'ai quitté la robe pour l'épée. L'attente où j'ai vécu n'a point été trompée. Mon père a consenti que je suive mon choix et je fais banqueroute à ce fatras de loi.
Impatience.
Hola !
Que désirez-vous, monsieur ?
Où sont vos maîtresses ?
Dans leur cabinet. Que
font-elles ?
De la pommade pour les lèvres.
Vous êtes trop pommadé.
Pour les vrais impatients, tapez savoir.rsr.ch.
Ce pourrait être le thème d'une comédie de Molière, voire l'argument d'une tragédie de Corneille. En fait, ce n'est pas une fiction. Corneille a écrit plus d'une quinzaine de pièces sous le nom de Molière, dont les plus célèbres, Don Juan, Le bourgeois gentilhomme, L'avare, Tartuffe. Certains parlent même du mystère Molière, car l'affaire n'est pas nouvelle et des critiques de l'époque, du XVIIe siècle, des écrivains ont déjà eu des doutes. D'ailleurs, aucun manuscrit de pièce, aucun journal, aucune note d'édition, aucune dédicace de la main de Molière n'a été retrouvée. Mais si aujourd'hui nous en parlons avec impatience, dans impatience, c'est que la science, et notamment les mathématiques, s'en mêlent. Dominique Labbé, chercheur à l'Institut d'études politiques de Grenoble, travaille sur des outils d'analyse statistique du langage depuis plus de 30 ans. Je l'ai rencontré à l'occasion de la sortie de son livre fort bien documenté, « Si deux et de fond 4. Molière n'a pas écrit Don Juan, Tartuffe, etc. » Ça, c'est le titre du livre. Alors, Dominique Labbé raconte comment, avec sa méthode scientifique, il a découvert la proximité étrange entre les textes de Molière et ceux de Corneille.
Il y a en fait trois volets. Le premier porte sur le vocabulaire et calcule la distance séparant le vocabulaire employé dans les textes. Pour deux auteurs différents, cette distance minimale est supérieure au quart de la surface du texte. Alors, nous avons appliqué cette technique aux quatre derniers siècles de littérature française et nous n'avons rencontré aucun auteur qui soit aussi proche que Corneille et Molière, sauf quand il s'agit d'un seul, comme dans le cas, par exemple, de Gary et Ajar.
Alors, juste peut-être expliquez-nous, on prend un texte d'un auteur, on prend un texte d'un autre auteur, puis après vous mettez tous ces textes dans une machine.
Voilà, et le programme calcule la distance qui sépare ces deux textes, distance calculée au nombre de mots différents employés dans ces textes. Et on constate que lorsque les textes sont d'un même auteur, cette distance est plus faible que quand il s'agit de deux auteurs différents. On y ajoute à cela des techniques de classification automatique qui permettent, lorsqu'on a un très grand nombre de textes, de rapprocher ceux qui sont de la même famille, en quelque sorte. À ce moment-là, on dit il y a un problème. Et on vérifie alors cela par d'autres techniques statistiques. Deux techniques principalement, les combinaisons de mots qui sont employés les plus fréquemment et le sens des mots. Alors, les combinaisons des mots qui sont employés le plus fréquemment, Corneille et Molière en ont les mêmes combinaisons favorites. Et il n'y a qu'un seul autre cas dans toute de l'histoire de la littérature, en tout cas de tous les textes que nous avons pu étudier, c'est Gary et Ajar, où l'on retrouve les mêmes combinaisons préférées avec les mêmes densités d'emploi. Donc là encore, le programme désigne avec certitude Corneille derrière Molière. Mmh. Et puis il y a une troisième technique là qui intéresse beaucoup les lexicographes, c'est le sens des mots. On reconstitue le réseau sémantique dans lequel sont inscrits les mots les plus usuels et on constate que chez Corneille et Molière, le réseau sémantique est le même. Nous avons donné l'exemple du mot « amour », qui est le mot le plus employé à la fois chez Corneille et chez Molière. Et l'univers qui est le plus associé au mot « amour », c'est l'univers de la haine. L'amour combat la haine, l'amour succède à la haine ou le contraire, etc. À la fois chez Corneille et chez Molière. Et puis, le mot qui est le plus éloigné, l'obstacle à l'amour, c'est le mot « père » chez les deux auteurs. On regarde qu'est-ce qu'on voit avec amour, par exemple, chez Racine ou chez Quinault ou chez Méret, les auteurs contemporains, et on trouve des réseaux sémantiques complètement différents qui, là, signalent qu'il y a bien deux auteurs différents. Il ne s'agit pas d'un seul calcul statistique, mais de la convergence d'un très grand nombre d'indices statistiques.
Vous en riez ?
Je ris de vous voir étonné d'un divertissement que je me suis donné.
Vous êtes intéressé à ces outils statistiques appliqués au langage depuis 1969. Et à quel moment précisément vous tombez sur les textes de Corneille, les textes de Molière ? Vous les mettez dans votre machine et paf, vous découvrez que c'est Corneille qui a écrit les pièces de Molière.
Alors, nous avons des jeux d'essai, on dirait, hein, un peu plus de 1000 auteurs différents et plus de 10 000 textes qui nous servent à étalonner nos programmes statistiques et nos techniques. Quand on a entré au milieu des années 90, Corneille, Molière, Racine, Quinault, Méret, et c'est à ce moment-là qu'on a découvert donc, ces proximités étonnantes qui nous ont amenés à faire les contrôles historiques nécessaires pour valider ces résultats statistiques. Et à ce moment-là, donc, on a évidemment répété l'expérience à de très nombreuses reprises, surtout en faisant les expériences de contrôle dont je viens de vous parler, mais surtout, nous sommes tournés vers les documents de l'époque pour voir si effectivement cette collaboration était possible. Et c'est là que nous avons découvert qu'au XVIIe siècle, non seulement cette collaboration était possible, mais c'était la norme. Plus de la moitié des pièces de théâtre de cette époque sont présentés non pas sous le nom des écrivains qui les ont composés, mais sous le nom de comédiens. Le frère de Pierre Corneille collaborait avec deux comédiens très semblables à Molière, Montfleury puis Autroche. Autroche était l'équivalent de Molière dans l'autre grande compagnie théâtrale, l'Hôtel de Bourgogne. Je donne aussi l'exemple de La Fontaine qui travaillait avec Champmeslé, qui était aussi un des très grands acteurs du temps. Je donne aussi l'exemple de Bourceau qui travaillait avec Raymond Poisson. Bref, de très nombreux exemples montrent que la collaboration entre un grand écrivain et un comédien était la norme à l'époque.
Donc on pourrait imaginer qu'effectivement Molière, en tant que grand comédien, metteur en scène, etc., prenait le texte de Pierre Corneille et l'adaptait. Comment ça se passait ?
Il s'agit ici de comédies. Hein. Les grandes tragédies, elles, étaient généralement, pas toujours, mais généralement présentées sous le nom de l'écrivain qui les composait. Alors, les comédies, au contraire, étaient présentées par des comédiens. Et ces comédiens remplissaient une multitude de fonctions. C'était eux qui lisaient le texte à l'assemblée de la troupe. Puis ensuite, il la mettait en scène. Éventuellement, il l'adaptait lorsqu'il y avait des scènes qui ne convenaient pas ou parce qu'on voulait faire rentrer des ballets, des choses de ce genre. Il veillait à ce qu'elle reste le plus longtemps possible à l'affiche. Et puis, tous les soirs, il assistait au partage de la recette. Car la recette était partagée entre les comédiens et les auteurs tous les soirs, mais l'auteur ne pouvait pas assister à l'assemblée de la troupe. Et donc, le comédien poète, comme Molière, était là pour représenter l'auteur et pour s'assurer que ce droit d'auteur était effectivement bien respecté.
Ce grand excès d'amour que je t'ai témoigné n'a point touché ton cœur, ou ne l'a point gagné. Ingrat, tu m'as payé d'une impudente feinte, et tu n'as eu pour moi respect, amour, ni crainte. Va, je te désavoue.
Donc pour vous, Dominique Labbé, en ayant utilisé ces outils statistiques appliqués aux pièces de Molière, vous pouvez affirmer sans sourciller que ce n'est pas Molière qui a écrit Le Misanthrope, Le Bourgeois Gentilhomme, Don Juan, etc.
Nous présentons un faisceau d'indices convergents qui ne laisse pas place au doute.
Ah, vous prenez quand même des précautions avec votre faisceau d'indices convergents. Mais
madame, en science, soit il y a la preuve, comme dans un procès pénal, on a effectivement l'aveu du coupable ou le fait qu'il a été pris en flagrant délit. Nous n'avons ni le flagrant délit, ni l'aveu du coupable, donc nous travaillons sur un faisceau d'indices. Mais je répète, nos méthodes statistiques ont été appliquées sur un très très grand nombre de cas, avec les méthodes de mise au point les plus sévères qui puissent s'imaginer. Et nous l'avons fait sur les romanciers anglais du 19e siècle, sous le contrôle d'universitaires d'Oxford. L'expérience a été totalement concluante. Ces techniques-là sont les plus sévères qu'on puisse imaginer.
Juste, si vous pouviez me décrire l'expérience. Vous avez dit, on prend ces textes, et juste me le décrire dans le détail.
C'est pas nous qui les choisissons. Ce sont des gens qui, a priori, doutent, hein, et qui choisissent les textes parce qu'ils pensent que ceux-là vont nous mettre en échec.
Hein,
ils
Alors,
les choisissent, ils les anoniment. Nos collègues anglais avaient choisi des romanciers anglais du 19e siècle qu'ils pensaient être très, enfin pour certains d'entre eux, très proches les uns des autres. Donc ils ont pris des textes qui a priori ne pouvaient pas, d'après eux, être distingués. Ils en ont mis 52 comme cela et ils nous ont dit « mariez-les ». Hein. Alors, il y avait une douzaine d'auteurs différents. Certains avaient 4 textes, 5 textes, d'autres en avaient 2, etc. Et donc, le résultat que nous leur avons présenté était totalement juste. Il n'y avait absolument aucune erreur dans l'attribution des 52 textes. Alors, si vous réfléchissez au nombre de combinaisons possibles que vous pouvez faire avec 52 objets, hein, c'est presque autant qu'il y a d'atomes dans l'univers. Vous voyez bien que la probabilité de réussir par hasard ce type d'expérience, c'est nul.
Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Au voleur !
Ça veut dire que Molière n'a écrit aucune des pièces présentées ?
Au voleur !
Aucune des pièces en vers, ni le bourgeois gentilhomme, l'avare, le malade imaginaire et Don Juan, qui sont en prose. Ces pièces-là, ces 17 pièces, 18 en y ajoutant Psyché, sont de Pierre Corneille.
Et quand vous trouvez ça, j'imagine que les biographes de Molière, les spécialistes de Molière, les amoureux de Molière vous tombent dessus.
Nous avons pris contact avec eux. La plupart n'ont pas souhaité dialoguer. Quelques-uns se sont montrés très intéressés, notamment le biographe de Pierre Corneille. Mais dans l'ensemble, disons que oui, il y a eu certaines réticences qui s'expliquent par la légende qui s'est constituée autour des deux hommes. On a fait de Molière un écrivain contestataire. Les documents sur sa vie ne correspondent pas du tout à cette image. Et on a fait de Pierre Corneille un genre de nostalgique conservateur, ce qui n'était pas du tout non plus. Mais ces deux légendes sont tellement prégnantes qu'elles empêchent de voir tout ce que ces deux œuvres ont en commun.
Vous verriez plutôt Molière, vous le décrivez en tout cas dans votre livre, plutôt comme un bourgeois gentilhomme, entre guillemets, plus intéressé par l'argent, et dont on pourrait... C'est un mélange de bourgeois gentilhomme et d'avare. Alors on s'était dit, bah oui, Molière s'est moqué de lui-même, mais en fait, c'est pas si sûr.
C'est pas si sûr. Oui, les documents de l'époque qui restent aujourd'hui, les actes notariés, l'inventaire après décès, montrent un homme riche, un riche financier, un homme de cour, qui avait une vie qui n'était pas du tout celle d'un écrivain contestataire. Il n'y avait pas de bureau d'ailleurs et très peu de livres. En revanche, Pierre Corneille lui-même, l'image de Pierre Corneille a été beaucoup abîmée par l'histoire. C'est en vérité un écrivain qui a toujours eu des ennuis à son époque parce qu'il est passé à raison pour quelqu'un d'assez contestataire. Sa dernière pièce d'ailleurs sur Héna lui a valu de voir sa pension supprimée parce qu'il décrivait un souverain capricieux, un pouvoir personnel qui brisait les serviteurs de l'État et faisait passer au premier rang le caprice du grand dirigeant, si j'ose dire. Non, Pierre Corneille n'est pas l'écrivain conservateur et bigot qu'on laisse croire aujourd'hui. C'est vrai qu'il s'est caché derrière Molière, mais tous faisaient ça à l'époque. Hein. Tous les grands écrivains présentaient leurs pièces légères, leurs farces, sous le nom d'autres comédiens.
Monsieur, puis-je à présent parler sans vous déplaire ?
Je remets à ton choix de parler ou te taire. Mais quand tu vois quelqu'un, ne fais plus l'insolent.
Votre ordinaire, est-il de rêver en parlant ?
Où me vois-tu rêver ?
J'appelle rêverie ce qu'en d'autre qu'un maître, on nomme menterie.
Mais est-ce que vous avez retrouvé des traces historiques, peut-être de paiement de Molière vis-à-vis de Pierre Corneille, enfin des choses qui pourraient aussi historiquement valider vos thèses ?
Alors malheureusement, les livres de contes de cette époque sont pratiquement tous perdus et pour les quelques-uns qui demeurent, les 2 années qui demeurent de l'époque de la vie de Molière, le nom de l'écrivain à qui sont versés ces droits n'est pas indiqué. En revanche, nous avons des années postérieures dans lesquelles parfois, quand il y a des conflits autour des sommes à verser, parfois le nom de l'écrivain apparaît. C'est comme ça que nous pouvons savoir que Thomas Corneille se cachait derrière Montfleury ou Autroche. C'est comme ça que nous pouvons savoir que Boursault se cachait derrière Poisson, etc.
Et vous, quand vous allez voir une pièce de Molière, Dominique Labbé, vous pensez à qui alors ?
Ayant beaucoup travaillé sur cette question, je pense à Pierre Corneille et j'entends maintenant Pierre Corneille, surtout depuis que j'ai pu voir il y a quelques années Le Menteur, qui est une pièce malheureusement trop peu jouée, et qui est... Quand on voit Le Menteur, on voit Molière, mais en fait, on est certain que c'est Corneille. Donc, maintenant j'entends Corneille et je le reconnais. Vous savez, notre trouvaille n'est pas du tout nouvelle. Un certain nombre de gens ont, depuis 4 siècles, pressenti Corneille derrière Molière. C'est le cas de Voltaire, curieusement, et c'est le cas de Pierre Louis, un poète français de la fin du 19e et du 20e siècle, qui, grâce à sa grande culture et à son sens de la rime et du rythme, avait senti...
Avait reconnu
la plume. Patte de Corneille, voilà, la patte de Corneille dans les pièces en vers de, présentées sous le nom de Molière, et notamment Amphitryon.
Vous demandez de moi, Alcippe.
Deux baisers, et ta main, et ta foi.
Que cela ?
Résous-toi, sans plus me faire attendre.
Je n'ai pas le loisir. Mon père va descendre.
Si 2 et 2 sont 4, Molière n'a pas écrit Don Juan, c'est signé Dominique Labbé aux éditions Max Milo et Dominique Labbé exposera ses recherches demain mercredi à 16h15. C'est à l'Institut de mathématiques de Neuchâtel. Réalisation interprétée par Cosette en 67, une trouvaille des agents de la phonothèque.